Bon, donc on va poursuivre notre chemin avec Monsieur Claude Guillot, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d'études émérite à l'École d'études en sciences sociales, grand spécialiste de l'Asie du Sud-Est qui a travaillé sur toute une série de sujets, qui était l'auteur d'un des chapitres, si je ne me trompe pas, dans le livre Marchands et hommes d'affaires asiatiques. Sur le Java au 19e siècle, si je ne me trompe pas
Tu
encore.
l'économies.
Oui, voilà. Et aussi le plus grand spécialiste d'ailleurs de commerce de Java occidental, et en particulier de Banten au 17e siècle et 16e siècle. Voilà, donc il va nous parler aujourd'hui de commerce et croyances à Banten sous Sultana Geng au 17e siècle.
Voilà, merci. Bon, j'ai pas de chance parce que tous les orateurs précédents ont parlé du monde. C'était très impressionnant. Moi, je vais parler d'une chose un peu enfantine qui est une ville qui s'appelle Banten. C'est situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Batavia. Batavia, c'était le centre commercial des Hollandais, qui était auparavant vassal de Banten. Ce sultanat fut fondé en 1527 par deux Macs, ça lui devient un peu compliqué, où régnaient des musulmans, en remplacement d'une vieille principauté riche en poivre qu'elle destinait plus particulièrement à la Chine. Ce sultanat a connu des hauts et des bas au cours de son histoire, mais j'ai limité mon propos à l'époque de Sultana Geng, 1651-1682, le dernier sultan indépendant qui a dirigé le pays avant qu'il ne soit pris par les Hollandais en 1682. C'est alors le seul royaume important de Java à être encore entièrement ouvert au commerce mondial. Il profitait de cette situation pour vendre son poivre, mais surtout pour échanger tous les produits de l'océan Indien. Quand j'entends l'océan Indien, ça veut dire jusqu'à la Mecque et de la mer de Chine jusqu'au Japon. Une description de la communauté urbaine me paraît nécessaire pour décrire la répartition des régions, des religions, pardon. À la tête de l'État se trouve le sultan, ou plutôt les sultans, père et fils, la tradition obligeant le sultan en place à choisir très tôt son prince héritier, ce qui fait qu'on parle toujours du vieux sultan, Sultanagan, et du jeune sultan, Sultananum. Ceux-ci sont entourés par la famille royale, les Nayaka, très importants en nombre. Viennent ensuite les fonctionnaires, les Pongo, appartenant à l'administration, à l'armée, à la marine et au commerce royal. Après quoi, il y a les hommes libres et évidemment les esclaves. Les esclaves sont très nombreux, sans doute comme dans l'approche Batavia, où en 1680, la ville qui comptait 30 740 âmes comprenait un total de 3 000 Néerlandais et métis qui avaient à leur service un total de 15 785 esclaves. Je répète, c'est pour Batavia, ça. Soit une moyenne de 5 pour 1. Tous ces gens habitent la ville royale qui est entourée de remparts. C'est comme Surat, mais sauf qu'on ne sait pas qui a construit, les a construits. Et ils sont tous musulmans, à plusieurs exceptions près que nous examinerons. À l'ouest de la ville royale, séparée par une rivière, se trouve la ville dite chinoise qui abrite les fonctionnaires d'origine étrangère, tous chinois, chefs du port et du commerce, directeurs de la douane et chefs du poids public. Les commerçants chinois, plus tous les étrangers riches, entre autres les Européens. Hollandais, anglais, français, danois, portugais, qui ont là leur loge. C'est là que se décident toutes les grandes opérations commerciales sous l'autorité du chef du port avec l'assentiment du sultan ou de son premier ministre. Ici, la situation religieuse est beaucoup plus ouverte. À l'est de la ville, un autre quartier pour étrangers, mais moins riche et plus industrieux. C'est le lieu d'habitation des Macassars, des Bouguis, des Balinais, des Malais, en principe tous musulmans, mais aussi d'un certain nombre d'Indiens et de mariniers restés à Banten, après le départ de leur navire, sur la religion desquels rien n'est dit. Alors, le vieux sultan, j'ai fait ça d'après les archives. Hein, et c'est très drôle comme... ça dépend des archives, mais les archives en question ne sont pas très loquaces sur la religion. Mais c'est intéressant quand même. Le sultan est un musulman convaincu et pratiquant. Il fait ses prières. Il a 4 femmes, dont il change souvent. Il ne boit pas de boissons alcoolisées, même avec les Européens. Il fait le jeûne. Pas d'audience durant cette période. Il va à la mosquée le vendredi dans un bâtiment imposant construit au milieu de la cité. Dans sa nouvelle capitale, il fait construire 2 mosquées, parce qu'il va changer de capitale plus tard. Bon, il fait construire 2 mosquées, une pour les hommes, une plus petite pour les femmes. Il est contre l'usage de l'opium et du tabac qu'il interdit. Il ne mange pas de porc et invite les Européens à aller chasser le cochon dans sa nouvelle cour. Quand il est malade, il est entouré d'ulama et lors de la prise de la ville, quand il est dans sa nouvelle capitale, tous les centris, c'est les dévots musulmans, viennent prier tous les soirs pour la prospérité du sultan et le succès de ses armes. Il connaît et utilise à bon escient les fêtes religieuses. Il organise la circoncision d'un de ses fils le jour du Mouloud. Et on fête en grande pompe dans la ville la circoncision de 2 de ses fils. Mais le vieux sultan n'aime pas la cour et le tracas des affaires publiques. Il est prêt à aller finir sa vie comme ermite dans la montagne. Cette idée de retraite est très courante dans le pays depuis 2 siècles et fait penser à un certain roi de la montagne. C'est le nom que porte ce personnage dans les archives. Un certain roi de la montagne qui annonce qu'il est mahométan, mais vit heureux dans la montagne avec ses femmes et ses enfants, se nourrissant de ce que lui donne la nature, sans manger de poisson ni de viande. Seul entorse à la loi musulmane, quand on lui emprunte de l'argent, ce qui arrive très souvent parce qu'il fait une sorte de banque, ce qui arrive souvent, il prête, mais à un taux de 2% par mois. Ajoutons encore que d'après la tradition, c'est lui et lui seul qui doit prendre une décision pour beaucoup de cas pénaux. On a l'exemple de 12 javanais qui sont condamnés à mort et tués après un incendie qui a brûlé la ville, et celui d'un javanais et celui de 4 macassars qui sont eux aussi passés par les armes. Le cas du jeune sultan, maintenant, est plus difficile à saisir tant il a suscité d'incompréhension et de haine. Il semble prendre le contre-pied exactement de son père. Alors qu'il est adolescent, et encore après, il demande des animaux aux Européens qu'ils s'amusent à faire battre à mort entre eux. Il part dans les villages ou dans la forêt quelquefois pour plusieurs semaines sans prévenir quiconque. Sous l'influence de missionnaires musulmans, il veut se consacrer à la vie religieuse et devenir ulama. Il refuse toute implication dans le gouvernement, excepté si on lui donne les pleins pouvoirs. Au point que son père, qui a reçu de la Mecque la nouvelle qu'il doit devenir son successeur, décide malgré tout de le faire déménager de la cour et de nommer à sa place son frère cadet comme futur roi de Bantène. Par la suite, il décide d'étudier le Coran et veut partir en pèlerinage à la Mecque. Il ordonne à ses gens de se vêtir. Il ordonne à ses gens de se vêtir comme à la Mecque. Quoi que ce soit contre l'intention du prince, c'est-à-dire du roi son père, il ne l'interdit pas, mais dit que son fils devient fou parce qu'il apporte un changement à l'habillement de son pays. Il réitère quelques mois plus tard sa volonté de se vouer à la vie religieuse, ajoutant qu'il ne veut pas prendre le royaume comme son père le lui demande. Il réussit enfin à partir en pèlerinage à la Mecque sur un navire du vieux sultan. À son retour sur un navire anglais, il est reçu triomphalement avec des bateaux qui vont le chercher en rade. Après être revenu, les relations avec son père ne s'améliorent pas. Il se dispute avec lui, part dans la forêt et se déclare prêt à repartir à la Mecque. Les sources européennes le jugent très favorable aux musulmans, même fanatique pour la propagation de la religion musulmane et ennemi des chrétiens. Ainsi, on le voit appliquer la charia, ce qui est tout à fait inhabituel à Bantène, et faire lapider un javanais pour adultère. Ce comportement le coupe de tout un chacun et cet isolement le rapproche de ses ennemis, les Hollandais. Il est favorable, contrairement à tous, au renouvellement du contrat de bonne entente avec Batavia au moment où se pose la question. On le voit par exemple de prévenir le résident hollandais que c'est un de ses oncles qui a tué les Hollandais qui se trouvaient dans une chaloupe, de peur que cette affaire ne lui soit imputée. Enfin, quant à la suite de l'assassinat qu'il a lui-même commandité des deux conseillers les plus proches de son père, celui-ci l'attaquera. C'est lui qui fera appel aux Hollandais en 1682, faisant de son royaume, de son pays, un royaume vassal de la VOC. Voilà ce qu'on sait du jeune sultan qui est appelé Sultanadji en raison de son pèlerinage à la Mecque. Et il est à noter qu'il fut le premier sultan de l'archipel à le réaliser. Les membres de la famille royale et les fonctionnaires sont aussi musulmans que les deux sultans. Ils dirigent un quartier de la ville qui possède aussi une mosquée et un prêtre. Par exemple, ce chef de guerre d'un âge certain qui combattit vaillamment est dit pour faire la Franque Sabine, la guerre sainte, contre les Kafres, les Hollandais, il lui suffit de regarder le ciel et qu'alors il sent déjà le ravissement d'y être accueilli par les bidadari. C'est l'équivalent des houris, ça. Il allait mourir 5 jours plus tard. De plus en plus nombreux sont ceux aussi qui font le pèlerinage à la Mecque, grâce aux nombreux navires qui vont jusqu'à Sourat et même au-delà. On sait par une étude sur les lois de Bantène que la majorité des hommes libres sont musulmans. Il en va différemment avec les esclaves, tout dépend de leurs propriétaires. Il faut dire qu'ils viennent en majorité des basses classes de la société. Lors d'une expédition, un groupe de soldats tombé sur une chaloupe hollandaise et sans raison, ils ont tué jusqu'au dernier javanais hollandais qui se trouvait à bord. À son retour à Bantène, le chef reçut un accueil glacial du sultan qui, très mécontent de cette aventure, décida de tous les châtier. Mais auparavant, il déclara que les esclaves kafres, c'est-à-dire infidèles, voulant se convertir à l'islam, seraient pardonnés. Voilà une image assez rapide de l'islam là-bas. Maintenant, on arrive à la garde du sultan. Plus étranges sont les gardes du sultan, appelés les Suranegara. Ce groupe est constitué uniquement de non-musulmans. Ils sont là pour protéger le souverain et font aussi office, et entre autres tâches, de policiers, en particulier dans les débits de boissons et les maisons accueillantes du quartier chinois où ils font payer des taxes. Le Premier ministre a pris 100 des plus fidèles serviteurs du sultan qui portent le nom de Wang Suranegara, ayant les cheveux longs et habillés, c'est la preuve qu'ils ne sont pas musulmans, les cheveux longs, et habillés d'une robe de perpétuano rouge ou portée de faux or. Ils passent pour les plus dévoués serviteurs du sultan, et il n'est pas question de les convertir. Ils forment sans doute le souvenir des ermites pré-musulmans qui habitaient la montagne sacrée au moment où le prince fondateur Hassanuddin est arrivé à Bantène avec l'islam. Il les a envoyés chez eux, il les a renvoyés chez eux en leur disant que si leur montagne était privée d'habitants, ce serait le signe de la fin de Java. À la fin du XVIe siècle, en 1596, les Hollandais ont appris qu'un nouveau groupe de tels personnages s'était installé là depuis peu. Ils en ont rencontré certains à Bantène et l'un d'eux a même été dessiné. Cette apparente anomalie persévère encore. Et ce groupe d'hommes est connu sur place sous le nom de Kanekes, ou plus communément sous le nom de Badoui. Donc Badoui, c'est une traduction vague de Bédouin. Les Chinois. Donc vous avez suivi, au centre, il y a la ville qui est entourée de remparts, et c'est là que se passe tout, disons. Et à l'ouest de cette partie, il y a le quartier chinois. Bon, il y a toutes sortes de gens, les chouyas, des lascars, des maures, des portugais, des bougis, des macassars, des palinais, des malais, des javanais, des danois, des hollandais, des français, des anglais, des hollandais, des chinois et des arméniens et des indiens, bien sûr. Bon, la majorité d'entre eux est arrivée sur des bateaux. Quelquefois, on prévient à l'avance de la situation locale. Les Lascars qui viennent de Sourate sont musulmans et risquent d'être soumis aux lois touchant les musulmans de la ville. Il demeure que parmi ces étrangers, les Chinois sont les plus nombreux et les plus actifs. Les grands, ceux qui ont des postes officiels, maître du port, chef de la douane, chef du poids, etc., sont musulmans, mais pas depuis longtemps. Le premier chabandar de Sultanagang a changé de nom. De Wanko, il s'appelle aujourd'hui Abdul Wakil. Bon, il est impossible de donner la proportion de musulmans. On nous dit que ce n'est pas une chose rare à Bontain. Concordé qu'il est musulman et on ajoute ce qui n'est que trop commun parmi les Chinois d'ici. Cependant, la majorité d'entre eux venant d'arriver, parmi eux se trouvent de nombreux loyalistes Ming, suivent la religion traditionnelle. Ils ont des temples et des bonzes, comme le prouve entre autres le témoignage du médecin danois Kortemunde. Mais la pression de l'islam monte. On dit que Pangeran Madura, c'était un très grand personnage, bon, mais ça suffit comme ça, a fait circoncire deux débiteurs chinois et que l'ordre lancé par le jeune sultan sur la façon de s'habiller avait surtout pour cible les Chinois. On voit par là pourquoi les Chinois convertis à l'islam sont à Bontain plus nombreux qu'ailleurs dans l'archipel. Alors, qu'est-ce que l'islam à Bontain ? C'est un islam rituel. Les tombes font l'objet d'un culte. Les grands vont sans cesse à Chirebon. Chirebon, c'est une ville qui n'est pas loin de Bontain. Sur les tombes, la tombe de leurs ancêtres. Et à Bontain même, on compte plus de nombreuses tombes saintes, ce dont se moque Tavernier. Dans la loi, il n'est pas question de charia. Celle-ci n'a été adoptée que pour les lois sur l'héritage. Et encore, le cas apparaît si peu réaliste qu'on peut se demander si elle fut jamais appliquée. Mis à part cette exception, les lois sont des lois coutumières. Et elles ne sont pas douces. On a déjà vu que le roi fait mourir par l'épée, bon, etc. On a vu ça. Tout objet ramené de la Mecque est considéré comme sacré et chargé de pouvoir, presque magique. En particulier les morceaux de tissu provenant de la Kaaba, les Kiswa, et des petits drapeaux. Par exemple, sa grandeur avec toute sa cour, on fait le tour de la ville avec deux drapeaux de la Mecque pour délivrer la ville de la peste et des mauvaises humeurs. Ces objets sont censés être vraiment efficaces puisqu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la guerre. Par exemple, celle du rebelle Trunojoyo, qui a réussi à renverser le souverain Mataram, Mataram étant le grand royaume qui est à l'est de Bontain. Donc, Bontain a fourni deux morceaux de tissu sacré de la Mecque à Trunojoyo, qui ensuite demande aussi les deux drapeaux qui lui sont envoyés. On fait jeûne pendant 6 jours et on prie de la campagne pour que le riz ne soit pas brûlé par la sécheresse. Le pèlerinage joue aussi une fonction importante dans cette ville. Quand Bontain est prise par les Hollandais, arrive un navire de la Mecque avec 28 personnes qui ont fait le pèlerinage et un arabe marié à la fille d'un grand hadj. Si l'on compte tous ceux qui portent le titre de hadj, on peut penser que ceux qui effectuent le pèlerinage sont relativement nombreux dans ce pays très éloigné de la Mecque. Ils ont la chance d'utiliser maintenant les nombreux navires étrangers qui vont à Sourate et de profiter des navires mis dans cette ville à la disposition des pèlerins par les grands moghols. À l'inverse, les Hollandais, en tant que chrétiens, sont vus comme dissemblables et cette particularité contribue à les considérer comme ennemis. Le vieux roi écrit au roi de Mataram. C'est une lettre interceptée, ça. Le bureau a écrit au roi de Mataram. « Tu devrais persévérer dans la religion de tes ancêtres. Tu n'es pas musulman ni chrétien. Tu es entre les deux. » Un autre chef de guerre panthénois a écrit à un gouverneur du roi de Mataram. « Es-tu chrétien ou musulman ? Veux-tu obéir à notre Dieu ou à celui des chrétiens ?» Bon, Curieusement, alors maintenant, je vais m'intéresser un peu à l'islamisation, à quels sont les agents de cet islam. Curieusement, l'islamisation n'a pas été faite par les Panténois eux-mêmes, malgré le nombril de centris et de gens qui ont fait le pèlerinage, mais grâce à des missionnaires arabes qui viennent de la Mecque et arrivent à Pantène de façon continue. Une chose est sûre, le monde musulman pour Pantène a une tête, une seule, c'est la Mecque. L'Empire ottoman n'existe pas. Le sultan qui nomme lui-même sultan des souverains de Tchireben ne se reconnaît qu'une seule autorité supérieure, le shérif de la Mecque. Depuis son prédécesseur, il n'y a qu'une seule façon pour lui d'obtenir le titre de sultan et un nom, c'est l'envoi d'ambassadeur à la Mecque, et c'est ainsi que le nom du sultan Abdul Fattah et celui qui doit lui succéder, Abul Kahar, seront portés à Pantène. On connaît, d'après les sources, au moins 5 navires revenant de la Mecque, pays où Pantène est ignoré des archives. Cinq navires revenant avec une réponse à une question du sultan. Mais le cas de la Mecque ne s'arrête pas là. On se rend compte que les missionnaires viennent généralement d'Arabie via Surat. Les sources nous disent qu'ils sont tous arabes. Ils peuvent être des missionnaires originaires de la diaspora, comme le Gujarat. Ils sont soutenus par le gouvernement qui, quand ils ont besoin d'un navire européen pour faire passer un collègue ou un simple colis, insiste toujours sur l'importance que lui accorde le sultan de Pantène. Il y a, d'après les sources qui sont essentiellement européennes et marchandes, en 30 ans, 49 missionnaires venus de la Mecque qui ont eu ou ont des liens avec Pantène, un certain nombre d'entre eux avec leurs femmes. Parmi eux, un nombre non négligeable de saïds ou descendants du prophète. Ceci est sans compter les oulamas locaux, dont en particulier un vieux oulama qui deviendra l'espion des Hollandais à la cour de Pantène. Il est clair que le nombre d'oulamas est loin d'être négligeable à Pantène, et on peut dire que Pantène se veut une annexe de la Mecque. On peut par ailleurs se poser la question de leur enseignement. Parmi les manuscrits de Pantène sur la région, seulement 2 datent de cette époque. L'un qui s'appelle « Les dons divins au sujet des questions javanaises » apporte des réponses aux interrogations envoyées par son prédécesseur sur le trône. Sur la Boudjoudia, une question d'importance de l'archipel depuis le XVe siècle, sur la façon de gouverner et sur les modalités de la charia. Écrite par un cheikh qui s'appelle Ibn Alan, un juriste de la Mecque. Celui-ci a été invité à venir à Pantène, mais il a refusé. L'autre est un recueil de manuscrits de Cheikh Youssouf. Né à Makassar en 1626, il part étudier à la Mecque. Il revient à Pantène en 72, époque où il devient le maître de religion du jeune sultan. Il va rester les 10 années suivantes à Pantène, où il remplit la fonction de conseiller spirituel de Sultan Agrin. En 1682, il suit Sultan Agrin dans sa fuite. Il se rend après lui, au bout d'un an, aux Hollandais. Ceux-ci l'estiment trop dangereux pour le laisser à Java et l'exil à Ceylan. Il y demeurera 10 années jusqu'en 1694. Il sera ensuite exilé au Cap durant les cinq ans suivants, jusqu'à sa mort en 99. L'ensemble de cette vingtaine de textes sont brefs et en arabe, et aucun n'a été composé à Pantène. Ils nous apprennent que Cheikh Youssouf est un soufi qui fait partie de plusieurs confréries, le Khalwatiya, le Naqshbandiya, et qu'il est un mystique. Mais il est aussi concerné par la situation politique, comme l'a montré son engagement dans la lutte contre les Hollandais. C'est tout ce que l'on a comme manuscrit sur la religion à Pantène. Donc une qui répond à des questions relativement simples. Et un autre, on n'ose même pas dire que c'est un manuscrit religieux, puisqu'il n'y en a aucun qui a été écrit à Pantène. C'est tout ce que l'on a comme manuscrit sur la religion à Pantène à cette époque. C'est dire qu'il n'y a pas d'oulama savant à Pantène, ou plutôt que la population ne l'exige pas. Les Panthénois sont relativement tolérants. Dans la ville chinoise, à l'embouchure de la rivière, il y a des musulmans, mais aussi des marins et avec des religions variées du monde. Là, on trouve des cabarets où l'on peut boire de l'arak et même rencontrer des femmes faciles. Les Chinois y ont leur temple avec les bonzes. Ainsi, quand le chef de la loge française, Guy Lan, il s'appelle, arriva à Banten, il demanda leur exemple au sultan le droit d'avoir une chapelle et un aumônier. Cette demande correspondait à une nouveauté, car auparavant, on ne souffrait pas à Banten que les missionnaires, les prêtres et les religieux passants y établissent de résidences fixes. Sultan Ageng lui donna la permission par écrit, non seulement pour avoir un aumônier et faire construire une chapelle, mais aussi pour que sa maison servît de retraite et d'asile à tous les prêtres et religieux qui passeraient par Banten. Il en profitera largement, puisqu'en 7 ans, ces 25 prêtres, qui seront hébergés à la loge française. Vous vous demandez peut-être comment je connais le chiffre de 25 d'après des archives qui sont un peu journalières. C'est que les Hollandais étaient, disons, assez terribles sur les prêtres. Bon, donc ils notaient qui étaient là. Trois d'entre eux vont faire des séjours assez longs. L'un, Antonio de Jésus Fernandez, l'aumônier de Guilaine, restera à Banten 6 ans, presque aussi longtemps que le résident de la loge. Les deux prêtres français seront laissés 3 ans à Banten par un conflit entre la France et les Pays-Bas. L'un d'eux parlait aisément le malais et connaissait le javanais pour les choses communes. Il fréquentait des centries, docteurs ou prêtres. Il écrit que dans leur loi religieuse, ils sont assez ignorants et ils n'en connaissent guère quelques coutumes dont l'usage est continuel. Et il termine en affirmant qu'il est nécessaire de connaître la langue arabe et le Coran, car les termes dont ils se servent en matière de religion sont tirés de cette langue. On peut dire que le vieux sultan montrait un certain respect pour ses missionnaires. Il décida ainsi de faire passer lui-même pour le Siam, où il avait réussi à s'échapper, sur le bagage de Monseigneur Palu, l'un des fondateurs des missions étrangères de Paris. Alors maintenant, se passe la question des enfuis de Bataviens. Alors je commence avec les esclaves. Ces esclaves de Bataviens sont très nombreux et se sauvent en quantité à Banten, pensant que leur vie sera meilleure. Il est dit que les esclaves de Batavia qui viennent à Banten arrivent sans cesse et en grande troupe. L'affaire est toujours la même, Batavia les réclame, mais Banten répond qu'on ne peut pas mettre un mort entre les mains d'un kaf. Kaf, ça veut dire infidèle. Ainsi, le Premier ministre, Kayario, il s'appelait comme ça, le Premier ministre en fait une fois circoncire 80 qu'il fait partir dans la montagne. Une autre fois, il refuse de rendre les esclaves échappés de Batavia, sauf en cas de réciproque. Après quoi, il en rend 80. Mais ajoute la source hollandaise, les 200 qui ont été circoncis doivent être utilisés à son service. Sur la fin du royaume, le vieux sultan écrit à son fils, qui par peur des Hollandais commence à réagir positivement à leur souhait, qu'il ne faut pas rendre les enfuis de Batavia à Banten, libres ou esclaves, s'ils sont convertis à la foi mahométane. Il n'est pas question de faire une évaluation de ces conversions forcées, mais les sources sont remplies de ces cas, qui apparaissent aussi dans les traités de paix, ce qui tendrait à prouver qu'elles étaient fréquentes. Les renégats, maintenant, pour se dégager des contraintes de leur compagnie ou pour toute autre raison, la solution pour les marins est d'aller chercher une plus grande liberté dans l'approche bantaine. Il leur suffit pour cela d'aller dans cette ville, d'y chercher un grand personnage et de se faire musulman. Dans les sources, on a une cinquantaine de cas. Là encore, mais ça ne veut rien dire. Là encore, il n'y a pas moyen de les renvoyer à cause de la loi musulmane qui interdit de les rendre à une autorité non musulmane. On a le plus souvent dans les sources le cas de convertis qui regrettent leur acte. Par exemple, on leur raconte que le sultan lui-même lui a coupé les cheveux, qu'il s'appelle désormais Abdul Rahim, c'est-à-dire celui à qui Dieu a montré sa clémence, qu'il a été circoncis et qu'à cette occasion, le sultan a offert un grand repas. Depuis sa circoncision, il n'a pas connu le repos et demande aux prédicants de retrouver le droit chemin. En général, après un temps plus ou moins long, ces renégats prennent un bateau vers une autre destination. Ces conversions deviennent assez courantes. Un polisseur de diamants est demandé par le sultan de Banten. Batavia hésite et, et l'envoie, mais on garde à Batavia sa femme et ses deux enfants pour être sûr qu'ils reviennent. Il s'agit certes de cas isolés touchant des hommes appartenant aux compagnies ou à des particuliers, mais on peut penser que leur nombre n'était pas négligeable malgré la vigilance des autorités. Quand le jeune sultan eut la maîtrise de Bantigny, il rendit ses renégats, sauf ceux dont il avait besoin, entre autres Cardel, un maçon qui lui avait construit un palais fortifié, et Jacob de Roy, un soldat qui était le seul à rester avec lui dans son palais assiégé par son père. Quand le vieux sultan lui fut fait prisonnier, on comptait encore autour de lui 10 Hollandais qui étaient rasés et habillés à la javanaise, et un certain nombre d'Anglais. Nul doute que leur nombre n'est pas représentatif de la réalité et que beaucoup ont déjà pris un navire particulier ou non pour aller ailleurs. Il y a deux véritables guerres entre Bantaine et Batavia durant le règne du sultan Agong. La première en 1659 et la deuxième 20 ans plus tard en 1679. La première est une guerre âpre qui se déroule avant tout sur terre, les Javanais sachant que leurs ennemis maîtrisent les mers. Tous les hommes participent, les plus grands personnages prennent part, militaires, même civils, comme le Premier ministre, et même les oulamas qui donnent une note religieuse aux affrontements. C'est ainsi qu'on voit Saïd Ali, un religieux qui vient de la Mecque, très présent sur le terrain. Il vient prononcer une prière avant le combat, et même un jour veut aller se battre à l'épée. Heureusement, un homme est là pour retenir son cheval et lui dire qu'il est là seulement comme Jimat, c'est-à-dire porte-bonheur. La Sujara Barthène qui rapporte ces informations se termine sur une description de la Pranksabil ou Guerre Sainte. Elle en donne les règles et même sa traduction arabe. Ces informations signifient peut-être l'émergence récente de ce concept. En revanche, dans les années qui vont suivre, des ambassades sont envoyées de part et d'autre pour signer un autre traité de paix, si bien que la guerre n'est pas encore vraiment active. Cependant, les conditions hollandaises sont exigeantes. Le jeune hollandais les remplit toutes. Le jeune sultan les remplit toutes. Renvoie des esclaves et de la plupart des renégats au grand désespoir de son père. Conséquence, le fils, poursuivant son propre destin, se retrouve seul dans son château assiégé par les troupes de son père, avec deux renégats hollandais seulement. Dans cette situation critique, il envoie un message à Batavia pour demander de l'aide. Batavia, saisissant l'opportunité ainsi offerte, accède immédiatement à cette requête. Le jeune sultan, qui hier encore passait pour un musulman fanatique, devient un doux allié des Kafres hollandais. C'est son père qui va devoir suivre la guerre autrement avec un Cheikh Yusuf tout-puissant. Dans le contrat signé par le jeune sultan, il est clairement stipulé que tous les étrangers doivent quitter Bantène. Je répète, il est clairement stipulé que tous les étrangers doivent quitter Bantène et ne pas y revenir, et que le poivre serait acheté uniquement par les Hollandais. L'islam à Bantène au XVIIe siècle est une religion encore nouvelle. Elle a moins de 150 ans depuis la fondation du sultanat. Les gens de Bantène sont musulmans et cela compte déjà comme un marqueur d'identité. La pression due à la religion ne s'exerce qu'à l'intérieur de la société bantonoise et dans les opportunités que leur offrent les Européens avec leurs esclaves et renégats. C'est une religion rituelle très influencée par les Arabes, par des Arabes qui n'écrivent pas. Et si les questions de Pranksabil, de Guerre Sainte, c'est à coup sûr une façon de décrire autrement la lutte contre les ennemis. En un mot, le commerce a eu des conséquences minimes, n'a eu que des conséquences minimes sur les croyances à Bantène. Il n'empêche que par volonté des Hollandais, maintenant qu'il ne lui est plus possible de naviguer vers le Proche-Orient autrement que sur leur navire, Bantène deviendra un centre musulman local qui n'accueillera plus d'oulamas étrangers et qui pourra envoyer moins de pèlerins et beaucoup mieux contrôlés. Voilà.